Ce matin, je voudrais poursuivre avec cette idée de la marche chrétienne, de la marche avec Dieu, à travers un autre texte, bien sûr. Donc, il y aura d'autres idées. Comme on le disait à l'étude biblique, la dernière fois, on disait qu'un mot dans la Bible, il faut toujours le comprendre dans le contexte dans lequel il est dit. Il ne faut pas dire, tu sors un mot, tu dis, ça veut dire ça partout. Parce que ce n'est pas nécessairement, il y a des nuances, il y a des enrichissements, des synonymes du mot qui peuvent être des mots qui peuvent conduire vers d'autres réflexions. Et donc ce matin, je voudrais vraiment aborder donc la marche chrétienne, mais au départ donc du texte de Galates. En fait, aujourd'hui, on va introduire ça, parce qu'en fait, l'idée vraiment est d'aborder toute la question des œuvres de la chair, du fruit de l'esprit, etc. Et je voulais vraiment aborder ça, puisqu'il s'agit véritablement des éléments qui guident par rapport à la marche. Donc le titre de la méditation d'aujourd'hui, c'est « La marche spirituelle fructueuse ». Marcher de manière à être productif. Bon, productif, j'aime pas le mot productif, parce que qui dit productif dit rentabilité, dit effort à notre niveau personnel, et dit aussi quelque part un peu de notre fierté, à dire c'est grâce à moi que. Mais qui dit fécondité dit plutôt que nous sommes comme un terrain que Dieu utilise. Et finalement, tout ce que nous faisons, tout ce que nous réussissons à faire, c'est parce que Dieu agit dans nos vies. Je préfère cette manière-là d'aborder. Et donc, quand je parle de marche spirituelle fructueuse, c'est bien cette idée que c'est le fruit du Seigneur qui se voit dans notre vie. Ce sont les progrès comme Dieu veut que nous puissions les faire, qui se manifestent dans notre vie. C'est un peu cette perspective qu'il y a dans la Nouvelle Alliance, et non pas la perspective de la loi qui consiste à faire des efforts et à gagner, rentabiliser par soi-même en disant « Voilà, je fais ci, je fais ça, donc je suis chrétien. » Donc j'aimerais que nous puissions donc aborder la marche chrétienne dans ce sens-là. Donc on va lire le texte de Galates, chapitre 15. Je vais vous proposer deux petits versets. Non, chapitre combien j'ai dit 15? Oui, c'est quand on confond les versets et les chapitres. Hein. Non, c'est heureusement que vous êtes des bons chrétiens. Hein. Je me rends compte que je ne peux pas me faire avoir ici, c'est chouette. Eh bien, c'est chapitre 5. Alors, je ne sais pas pourquoi je pense au verset 15, mais on est au verset 16, donc verset 16 et de verset 16 à verset 18. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Alors, prions d'abord. Seigneur, merci de nous conduire dans la méditation, la réflexion de ta parole, et merci de nous éveiller à ce chemin que tu traces devant nous et à l'importance d'avoir un guide qui nous conduit sur ce chemin. Merci, notre Dieu, de nous bénir encore aujourd'hui à travers encore ce moment de partage. Au nom de Jésus. Amen. Alors, vous savez ce que c'est qu'un labyrinthe? Hein? Un labyrinthe, c'est un endroit où il y a plusieurs passages, plusieurs chemins, et souvent on tourne en rond, on a du mal à s'en sortir. On peut marcher, on peut tourner, on peut sans jamais trouver en fait son chemin, sa sortie. Et tourner en rond, franchement, avoir l'impression qu'on marche, mais qu'on ne voit pas l'issue, c'est très, très, très pénible, très, très déprimant. Une fois, nous étions partis en Allemagne, et alors, j'ai raconté ça, donc pardonnez-moi, si je raconte ça pour une deuxième fois, c'est pas grave. Nous étions partis en Allemagne, et nous allions vers Munich, là-bas, chez mon frère. Et donc, on est arrivé, enfin, en plein milieu de l'Allemagne, je peux pas vous dire où, hein, parce que, voilà, c'est déjà écrit dans une langue que je ne maîtrise pas du tout. Et donc, voilà que la route que mon GPS est censé suivre est fermée, bloquée. On fait quoi, alors? Tu sais pas lire, tu sais pas lire ce qui est écrit. Et si tu le lisais, Ausfahrt, 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 je comprends rien à ce qu'ils disent. ça devient compliqué. Alors, évidemment, tu dis, bon, le GPS, il est intelligent. Et donc, forcément, il trouvera bien un chemin. Allez, tentons n'importe quoi, n'est-ce pas? Alors, tu dis, allez, tiens, bon, c'est fermé là, ben, je prends à gauche. Et puis, tu prends à gauche, tu montes. Et puis, zut, alors, tu redescends, tu retrouves le même point. Il dit, oh, ben, allez, ma femme, comme elle est... Et persévérant. On dit, mais alors, on laisse cette route à gauche, on prend maintenant tout droit. Et on va tout droit, ding, on arrive dans la ville, et la ville, il n'y a plus de route après. On revient, voyez, et on tourne, et on a perdu comme ça à peu près 2 heures à chercher la route. Et quand on l'a trouvée, en fait, on avait fait, mon frère m'a dit qu'on a fait un détour de 200 kilomètres. Ah, ça, c'est le bonheur des routes barrées. Hein. Alors moi, c'est mon cauchemar. Quand je vois une route barrée, quand je voyage, je dis, mon Dieu, c'est parti encore pour les misères. Hein. Un voyage que vous prévoyez pendant 6 heures, ben vous le faites en 12 heures. Quoi. Enfin, bon. Bref, je suis en train de dire en fait que une route que l'on prend et qui finit par devenir une route difficile, compliquée, c'est pas évident. Quand on marche sur un chemin et que on tourne en rond, c'est dur, c'est pas évident, c'est décourageant et quelque part ça finit par être contre-productif parce qu'on baisse les bras, on laisse tomber. Dans la vie chrétienne aussi, on peut aussi avoir l'impression de tourner en rond dans notre marche chrétienne, d'avancer, mais on ne sait pas très bien où, quand, pourquoi, qu'est-ce qu'on fait au juste. De se lever le matin, de dire, mais en fait, je suis chrétien, mais ça rime à quoi ma vie chrétienne? Je fais quoi au fait? Je vis quoi? Je vis comment? Qui suis-je? Et on marche, et parfois on revient au même point, on refait les mêmes histoires, les mêmes bêtises, les mêmes choses, et on est frustré, on est embêté, on se sent tellement affamé, tellement pauvre. Ce matin, à travers ce texte, j'aimerais peut-être découvrir un peu deux chemins spirituels, un chemin qui est un véritable labyrinthe, un chemin où véritablement, quand on y est dedans, on n'en sort pas, on tourne en rond, il n'y a pas de fruit. On souffre, on passe, on tourne en rond. Et il n'y a pas de progrès, il n'y a pas d'avancement. Et un deuxième chemin qui est plutôt un chemin fructueux, qui lui nous conduit quelque part, fait de nous que nous avons du fruit, nous avons un progrès, nous avançons. Nous avons la satisfaction et la joie que voilà, on avance, on est dans le bon, on est dans la bonne direction. Deux chemins se présentent à nous à travers ce texte. Un chemin où nous sommes livrés à nous-mêmes, ce fameux labyrinthe où nous devons nous débrouiller tout seuls. Et puis l'autre chemin, ce chemin plutôt où nous avons du résultat, qui est un chemin avec un guide, quelqu'un qui est là pour nous montrer la voie. Et franchement, moi sur mon chemin en Allemagne, là, j'aurais été heureux d'avoir un Allemand qui connaît bien la région. Parce que au moins, il m'aurait dit, prends là, ou reviens en arrière, et puis il y a l'autre autoroute par là, et tu reprends, et puis tu es parti. Quand on a un guide, quand on a quelqu'un pour nous accompagner sur la route, et nous montrer le chemin, franchement, là où le chemin semble difficile pour nous, là où les choix sont compliqués à faire, si nous avons un guide, quelqu'un qui nous montre le chemin, ça nous aide, et ça nous fait avancer. Deux voies spirituelles. La marche sur le chemin du désir, les désirs de la chair. Et la marche sur le chemin selon l'Esprit, le Saint-Esprit. Deux voies, deux chemins qui en fait illustrent la réalité de tout croyant. Tout croyant né de nouveau. Je dis bien né de nouveau. Je ne parle pas ici des chrétiens qui disent qu'ils sont chrétiens, qui croient qu'ils sont des chrétiens, qui pensent qu'ils sont des chrétiens, etc. Je parle de celui qui est né de nouveau, celui qui a fait le pas personnel de vivre avec Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, eh bien, dans notre réalité, nous sommes en conflit à l'intérieur de nous-mêmes, en conflit permanent entre la chair et l'esprit. Nous sommes des personnes en qui il y a ce combat avec la vieille nature et notre nouvelle nature. Et c'est un conflit permanent. Souvenons-nous des propos de Paul. Tu peux montrer. Romains chapitre 7, verset 15. Ah, oh, ouais, cette fois, je n'ai pas dit chapitre. Ah oui, chapitre 15, ça existe encore, ça va encore. Romains 7, 15 à 19. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Nous sommes toujours, même nés de nouveau, confrontés à ce problème. Où, en réalité, nous sommes toujours en train de nous battre avec la loi de la chair, le désir de la chair. Tous comme l'apôtre, donc, nous faisons face à ce conflit étrange en nous. Ce conflit qui, malgré nous, nous oblige à ne pas toujours nous trouver aussi fiers de nous, aussi bien que nous souhaitons être devant Dieu. Et nous savons que notre nature pécheresse, cette nature de l'homme livré à lui-même, cette nature que nous avions auparavant, qu'on appelle la vieille nature, bien sûr, elle a été vaincue à la croix. Oui, elle a été rendue incapable de nous rendre esclaves. À la croix, Jésus l'a écrasée, l'a rendue incapable de nous asservir. Mais la vieille nature, elle est là toujours. Elle n'a pas été détruite, elle a été vaincue, elle a été écrasée, mais elle n'a pas été détruite. Elle sera détruite une fois pour toutes à la fin des temps. Elle existe encore, et de temps en temps, elle veut relever la tête. Elle veut nous remettre encore sur le chemin des désirs de la chair. J'aime bien cette image dans la Bible avec Dieu lorsqu'il parle à Adam et Ève. Il s'adresse à Ève, il dit « La descendance de la femme t'écrasera la tête, mais toi, tu lui mordras le talon. » T'écrasera la tête. Signe de victoire, signe de triomphe, signe de domination. Mais le serpent lui mordra le talon. Parce qu'en fait, le règne du serpent ne sera pas encore terminé. Il sera encore capable d'être dangereux, de faire encore mal. Mais la domination demeure du côté du Seigneur. C'est la réalité qui est la nôtre aussi. Et donc, c'est une réalité qui nous prévient que dans notre vie de chrétien, nous avons à veiller sur nous, sur notre marche, afin que nous ne donnions pas de l'espace, de la marche, de l'ouverture à notre nature, à notre vieille nature charnelle. Que nous ne lui donnions pas en quelque sorte à manger pour qu'elle grandisse, qu'elle grossisse. Vous connaissez cette image avec un homme qui un jour a trouvé un animal, un petit animal tout beau, il était un peu tacheté, il ressemblait à un gros chat, il était tout beau, et il avait un peu tigré. Le gars, il a dit, ah ben, il est un peu tigré mon chat là, je l'aime bien mon chat là. Il a pris ce chat, il l'a emmené chez lui. Seulement, le chat en grandissant, ce n'était plus le chat, c'était un tigre. Et la nourriture qu'il fallait le nourrir n'était pas un tout petit peu, c'était des gros morceaux de viande. Et à force de lui nourrir de la viande fraîche, eh ben, un jour, le tigre a voulu manger son maître. C'est un peu ça avec la nature pécheresse. Nous lui donnons à manger, elle grossit, elle devient même dangereuse pour nous-mêmes. Elle va nous bouffer, elle veut nous bouffer complètement. La chair, c'est donc cette nature qui est en nous, qui est lié avec ce que nous étions avant Christ, et qui se sert aussi, pas seulement de nos désirs du corps, pas seulement de ce que nous voulons, nous désirons en tant qu'être humain, dans notre chair, dans notre corps physique, mais elle se sert aussi de notre monde. Regardez comment le monde fonctionne. Le monde fonctionne de manière à alimenter les désirs de la chair. Vous avez remarqué ça? On vous fait manger des choses dont vous n'avez pas toujours besoin. On nous fait croire que nous avons besoin de ceci ou de cela, alors que ce n'est pas vrai. On nous fait croire que, surtout les jeunes, moi je les plains, on les fait croire que l'amour, mais on peut le rencontrer déjà jeune. On peut déjà vivre maritalement avec une femme. J'ai un jeune qui était venu, il avait 14 ans à l'époque, il a débarqué chez moi inquiet, vraiment embêté, parce que ses copains lui avaient dit que s'il n'a pas de rapport sexuel, là, pendant qu'il est jeune, eh bien, quand il va se marier, il ne saura pas assumer sa sexualité. Et une autre encore, on lui a dit que si elle n'a pas de partenaire, eh ben, elle va être une perturbée. Ça rend fou de ne pas avoir de partenaire. Parce qu'on encourage les désirs de la chair. Notre monde est fait comme ça. Le commerce, l'économie, la façon dont on vit, c'est fait pour que nos désirs charnels puissent être satisfaits. C'est pour ça que Jésus dit, n'aimez pas le monde et tout ce que le monde a. Parce que ce que le monde a est inimitié pour Dieu. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Un chemin à ne pas suivre, mais un chemin à éviter. Il n'est donc pas étonnant que si nous avons cette espèce de cohabitation entre la chair et l'esprit, il n'est pas étonnant que nous soyons en lutte. Warren Wiersbe, c'est un commentateur que j'aime particulièrement. J'aime beaucoup ce type et j'aime bien aussi ses commentaires bibliques. Il disait ceci, donc j'ai recopié ce qu'il a dit. Notre vieille nature ressemble au porc. Elle est toujours en quête de la nourriture impure. Notre nouvelle nature ressemble au mouton et ou à la colombe. Elle est avide elle est avide de ce qui est sain et pur. Il n'est pas étonnant qu'une lutte s'engage dans la vie du croyant. L'homme qui n'est pas sauvé ne connaît rien de cette lutte, car il n'a pas le Saint-Esprit. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc ce texte ici que nous voyons dans Galates chapitre 5 de Millions de Voix, ce n'est pas un texte qui nous présente une situation sans issue. C'est pas un texte qui dit, voilà, je vous présente le tableau, il y a la chair, la vie selon la chair et la vie selon l'esprit, et voilà. Terminé, vous savez maintenant, tirez votre plan. Ce n'est pas ce que le texte dit. Le texte ne nous dit pas ça, ne nous présente pas une situation bloquée. Ce texte, au contraire, nous montre que la marche fructueuse, c'est la marche selon l'esprit. C'est la marche dans laquelle nous avons un guide, quelqu'un qui nous montre la route, quelqu'un qui sait où il nous emmène, qui est sûr de la voie dans laquelle il nous oriente, la marche selon l'esprit. Et ce texte sous-entend l'idée que, attention, je vous ai montré ce que c'est, mais c'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir lequel des deux chemins vous voulez suivre. Mes amis, il est très facile pour nous de dire, je croise les bras, je ne fais pas d'effort. Je ne cherche pas, je ne fais pas de choix. Seigneur, bouge-moi. Allez, je suis comme un papillon à papier. Allez, hop, allez, hop. Le Seigneur veut que j'aille à gauche, hop, je saute à gauche. On aimerait bien, ce serait plus facile qu'on ne décide pas, que Dieu décide à notre place et qu'il nous conduit dans la décision. Non. Ce texte dit que nous avons à faire un choix. chaque jour de notre vie. Et les choix que nous faisons, c'est ça qui va déterminer notre marche. Le choix pour Dieu, pour la voie pour Dieu, chaque jour, c'est ça qui va déterminer notre marche fructueuse. Le chrétien est quelqu'un donc qui doit se déterminer dans la direction à suivre. Il doit s'efforcer de vivre dans le choix qu'il a fait et il doit l'assumer. Assumer son choix. Bien entendu, cela va entraîner des sacrifices. Cela va entraîner de souffrir. Mais on sait pourquoi on souffre. On souffre pour Christ. Cela va entraîner évidemment de persévérer, même sur des voies qui ne sont pas celles de tout le monde. Quand j'étais jeune, souvent ça me faisait du mal de voir mes copains qui vont aller danser. Et moi, tout bien réfléchi, ce serait quand même pas bien, ce serait mieux que je reste à la maison. Parce que je me connaissais. Si je veux danser, et vous connaissez, René n'est pas là, il allait éclater de rire, il allait citer encore ma danse préférée, mais enfin, voilà. Il y avait cette musique-là que j'aimais bien, là, mais on ne la dansait pas tout seul. On la dansait avec une demoiselle, quand même. Et cette danse-là, elle était tellement chouette que la demoiselle et moi, et vous voyez, ça devient un peu compliqué dans la tête. Et on ne sait plus si on est encore dans la chrétienté ou si on ne va pas reculer un petit moment la frontière du chrétien et puis dire on revient un peu dans ce que nous aimons charnellement. Voilà. Voyez. Alors, je sais tout ça, je fais le choix de ne pas aller. Parce que voilà. Je sais très bien que si j'y vais, je m'expose à des tentations. C'est le choix. Il faut toujours faire des choix. C'est parfois difficile parce qu'on a des copains, on est bien content de pouvoir rester avec eux. Mais, et quelle est la motivation du chrétien pour faire tous ces sacrifices? C'est l'amour de Dieu. C'est aimer Dieu. Parce que j'aime le Seigneur. Je l'aime tellement que je veux que rien ne soit un obstacle entre lui et moi. Je l'aime tellement que je veux que notre relation soit en permanence sans orage, sans difficulté, sans problème. Et s'il y en a, je l'aime tellement que je veux que ça s'arrange vite, que je retrouve une relation merveilleuse comme toujours avec lui. Mais je pose une autre question. Est-ce que c'est parce que j'ai la bonne volonté que je vais réussir ma marche chrétienne? C'est une question que je vous pose à vous aussi, vous pouvez me répondre. Hein. Est-ce que je réussis ma marche chrétienne parce que j'ai la bonne volonté, tout simplement? Vous avez l'air de me regarder en disant, mais qu'est-ce qu'il raconte? Non! Non! Ma bonne volonté ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Je peux avoir plein de bonnes volontés, mais ce n'est pas pour ça que je vais réussir ma marche chrétienne. Pas du tout. C'est toi qui l'appelles? Tu vas... You want money. Go to... Je ne sais pas comment on dit ça. Jaco, vas-y. Voilà. Nous avons régulièrement des visites presque cycliques avec des personnes qui viennent nous dire bonjour dans l'église. C'est magnifique, ça met de l'ambiance. Allez, on reprend. Est-ce que c'est par ma volonté, que je peux réussir mon défi d'être un bon chrétien, de marcher d'une manière fructueuse pour Dieu? Non! Ma volonté, je l'ai. Je veux bien. Vous voyez, Romains chapitre 7, là, il veut. Il a envie que les choses aillent bien. Mais il n'y arrive pas. Est-ce que c'est seulement ma volonté? Non. Non. Essayez un peu de lutter contre la chair. C'est pas évident. Mais si je veux marcher d'une manière fructueuse pour le Seigneur, il faut que j'apprenne à me laisser conduire par le guide. C'est cela. Tu peux retourner à Galates, s'il te plaît. C'est ça qu'il dit au verset 18. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Lorsque j'apprends à abandonner ma volonté au Saint-Esprit, lorsque je laisse le Saint-Esprit me guider et me diriger, alors je vais de victoire en victoire. Ma marche devient une marche victorieuse. Il ne s'agit pas seulement que de ma volonté, mais il s'agit de faire en sorte que ma volonté soit fortifiée par la volonté de Dieu. Que ma volonté trouve sa force et sa puissance dans le Saint-Esprit. C'est cela qui permettra que, dans ma vie, je puisse alors aller de victoire en victoire. C'est ce que ce texte dit. Dieu nous appelle, bien sûr, à faire le choix entre une vie, un chemin, selon les désirs, qui est le chemin que, clairement, ce texte condamne, et le chemin avec le Saint-Esprit. Mais seulement ce chemin-là, il ne s'agit pas seulement de choisir, de vouloir, mais c'est aussi de me laisser guider, de pouvoir me mettre plutôt sous le pas du guide, de mon guide qui est le Saint-Esprit, qui va lui me diriger. Alors, question à deux sous. Comment est-ce qu'on fait pour laisser le Saint-Esprit guider nos vies? Comment on fait ça? Eh bien, quelques suggestions, et nous allons lire le texte de Romains 8 qui va aussi le confirmer cela. En soumettant notre volonté à la volonté de Dieu. Comment on fait ça? Comment est-ce que je soumets ma volonté à la volonté de Dieu? C'est en faisant en sorte que ce que je veux, ça corresponde avec ce que Dieu veut. Que je ne fasse pas les choix que moi je pense être justes, mais que je vérifie si mes choix sont ceux qui sont ce que le Seigneur veut à travers sa parole. C'est dans ma prière dire au Seigneur, je ne veux pas que mes décisions soient des décisions qui s'éloignent de ta volonté. Je veux que mes décisions, mes choix, ma volonté s'inscrivent dans ta volonté. Je veux marcher pas à pas dans ma vie avec toi. Deuxième chose, en facilitant le travail du Saint-Esprit dans nos vies. Comment est-ce qu'on facilite le travail du Saint-Esprit dans notre vie? C'est lorsque nous renonçons à tout ce qui nous permet, c'est tout ce qui nous emmène à vivre une vie de péché. Vous savez, parfois nous fonçons sans réfléchir à dans des situations, qui sont des situations problématiques pour nos vies. Des endroits où l'on ne doit pas être et on se trouve. Des gens avec qui on est, avec qui on ne devrait pas être. Des moments où l'on fait des choses où, que l'on ne doit pas faire. Et ce n'est même pas les autres qui doivent le dire. C'est moi-même qui, quelque part, dans ma conscience, me le dis déjà. Oh là, attention, t'es pas toujours là où il faut, hein. Ah, tu fais pas tout ce qu'il faut là, tu dis pas ce qu'il faut là. Le mot que tu dis là, c'est, ça va pas. Cette pensée là dans ta tête, non, c'est pas. Il faut apprendre à faciliter le Seigneur. Et pour ça, la clé, pour faciliter l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, c'est le renoncement. Renoncer à nous-mêmes, renoncer à nos droits, au droit d'être ce que je suis, au droit de décider ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Renoncer à ça. Soumettre ça à la volonté de Dieu. L'humilité, savoir que Dieu d'abord et moi ensuite. La disposition au changement, être prêt à changer. Lorsque je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, supplier Dieu jusqu'à ce que j'obtienne le changement en moi. Être à l'écoute du Saint-Esprit pour être guidé dans notre marche tous les jours. Je vais terminer avec ce texte de Romains chapitre 8, versets 5 à 13. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent des choses de l'esprit. S'affectionnent. Ça veut dire que c'est des choses pour lesquelles ils ont une grande affection, un grand amour, un grand intérêt. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie de vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables de la chair pour vivre selon la chair. Mais si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Voyez, si vous faites mourir, ça c'est le renoncement, ça c'est le refus, ça c'est le rejet. Je ne veux plus rien avoir en commun avec tout ça. Le texte poursuit, bon ça c'est juste pour le... je me suis arrêté à 13? Très bien, oh là, parce que j'avais dans la tête de continuer, mais c'est pas grave, ne continue surtout pas, c'est très bien comme ça, c'est très bien. Donc, apprendre à laisser le Saint-Esprit diriger nos vies. Si nous voulons véritablement le faire, il faut faire disparaître notre façon de vivre, notre façon égoïste de vivre. Égoïste dans le sens que nous ne pensons que par rapport à nous-mêmes. Nous ne partons que de nous. Les idées viennent que de nous, sans aucune consultation avec Dieu, sans aucune précaution à prendre par rapport au fait que c'est Dieu qui est le maître de notre vie et c'est à lui de décider, sans chercher en lui. Mais nous avons des armes, mes amis, pour cela, pour permettre que cette marche soit fructueuse, que cette collaboration avec le Saint-Esprit soit possible. Nous avons des moyens. Ces moyens sont toujours les mêmes. C'est une vie de prière dans laquelle j'associe Dieu à tous mes projets ou dans laquelle je supplie Dieu de m'aider à vaincre la chair en moi et à marcher selon l'Esprit. Je peux le faire, et je devrais le faire et je devrais demander cela à Dieu. Que le Seigneur nous aide à vraiment comprendre ces choses-là et à faire le bon choix et à laisser le Saint-Esprit guider nos vies afin que notre marche pour Dieu soit une marche fructueuse. Prions. Seigneur, merci pour le chemin que tu traces pour nous. Merci parce que tu as déjà tout prévu. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour réussir. Tu as déjà, à travers le Saint-Esprit, établi un GPS pour nous, pour que même si la route est barrée dans une direction, nous puissions trouver un autre chemin, puisque le Saint-Esprit est plus qu'un GPS, c'est un guide vivant, notre partenaire, notre Dieu, la présence permanente dans nos cœurs, Seigneur. Et merci d'avoir tout équipé. Aide-nous simplement à rentrer dans cette dynamique, en renonçant à nous-mêmes, en soumettant notre volonté à toi. Aide-nous à marcher sur ce chemin en te laissant, en étant à ton écoute, afin de vivre la vie que toi tu veux et non pas celle que nous voulons. Merci Seigneur de nous aider et de nous accompagner. Dans le nom de Jésus. Amen.